bénissons ta divine présence ce matin. Merci pour ta gloire. Merci pour ta présence, Seigneur mon Dieu, qui remplit ce temple. Au-delà de ce temple, qui remplit toute la sainte, Seigneur, de ce temple. Merci pour ce culte béni dans ta présence. Que ton nom soit béni ce matin. Que l'honneur, la gloire te reviennent. Nos cœurs sont déchirés. Quelle présence. Quelle présence. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur par nos acclamations? Est-ce qu'on peut pousser des cris au Seigneur pour sa présence? Pour sa présence. Pour sa divine présence. Merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment très bénissant dans sa présence. C'est merveilleux. C'est formidable. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Oh, Jésus. Il nous arrive de nous perdre dans sa présence. Les angoisses, tout ce qui peut nous déranger au derrière. Et nous voyons que le Seigneur. Merveilleux. Nous aimons le Seigneur, nous aimons des temps comme celui-ci. Et notre prière, que pendant ce moment, que nous ne puissions pas baisser, que la gloire de Dieu continue à nous amener très haut. Et que nous puissions avoir un culte très bénissant. Nous vous saluons dans le précieux bon nom de Jésus. Et nous voulons dire merci à Dieu pour nous avoir donné cette grâce de nous tenir devant le peuple de Dieu. Ce n'est pas pire grâce que nous pouvons le faire. Et nous voulons aussi dire merci à l'homme de Dieu, notre pasteur, pour les choix apportés à notre personne. Et voilà, pour lui, c'est un risque de pouvoir donner à un des collaborateurs, parce qu'il lui-même sait le faire, il sait très bien prêcher, mais hélas, il a aussi un cœur d'entraîneur, de ce qui fait que de temps en temps, il doit passer le micro pour pouvoir nous aider à évoluer au cas où il y aura un petit bémol, soit dans sa vie, soit le Seigneur pourra l'appeler. Alléluia. Voilà, que le Seigneur soit béni, merci. Et je m'en vais aussi dire merci au pasteur pour tous les soutiens par rapport à nous qui sommes étudiants. Nous voyons, nous étudions à la théologie, à la faculté théologique, à l'Institut biblique, et nous voyons comment les autres étudiants peinent pour pouvoir payer soit les frais, soit les syllabus, et que sais-je encore. Mais nous, par la grâce de Dieu, nous sommes quittes. Nous ne regardons même pas cela. Pourquoi? Parce que c'est payé automatiquement. Nous voulons bénir le Seigneur. Et cela, je me permets de le dire au nom de tous les étudiants. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous voulons parler de la part du Seigneur. Et si nous voulons les textes, ce matin, nous sommes dans le livre de Luc, Luc chapitre 8, nous allons prendre le verset 27 à 39, mais aussi pour beaucoup plus de précision, nous ajouterons Marc chapitre 5, verset 5, et puis Marc chapitre 5, verset 18 à 20. Nous lisons la parole du Seigneur. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Et en vit Jésus, il poussa un cri et se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils de Dieu très haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes et les fers aux pieds, mais ils rompaient les liens et ils étaient entraînés par les démons dans le désert. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Les gens répondirent-ils, « Car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Nous prenons Marc chapitre 1. C'est pas encore fini. Et ils prièrent instantanément Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. D'aller dans l'abîme. Nous lisons Marc chapitre 5, verset 5. La Bible dit, il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Le verset 8. Il est dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Nous prenons le verset 18 et 20 pour terminer notre texte de base. 18 et 20. La Bible dit, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Le verset 20 dit, « Il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. » Et tous firent dans l'étonnement. C'est la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la parole du Seigneur? Amen. Merveilleux passage. La fois passée, au mois de janvier, nous avons parlé ici du haut de cette chaire. Nous avons parlé d'un thème introduisant ce grand thème que nous avons, le repos. Nous avons parlé du repos intégral qui déborde ou débordant. Un repos qui est dans l'esprit, dans l'âme et dans le corps, qui déborde pour aller toucher les voisins. Mais ce matin, nous voulons ne pas aller très loin de cette pensée. C'est pourquoi nous avons retenu donc ces mêmes passages. Alors, aujourd'hui, nous voulons parler de ces thèmes que nous avons commencé à développer depuis le début du mois. Nous sommes dans comment entretenir et conserver les repos acquis. Comment entretenir et conserver les repos acquis. Alors, ceci étant une énième intervention sur les 10 thèmes dont nous n'avons pas besoin de pouvoir vous rappeler quelques définitions pour pouvoir gagner beaucoup plus de temps. Mais en dépit de cela, il est quand même important que nous puissions rappeler quelque chose qui nous a touché autour de toutes ces paroles qui ont été dites du haut de cette chaire. Notamment, j'ai retenu que entretenir, c'est quelque chose qui se fait sporadiquement, de temps en temps, tandis que la conservation, quant à elle, c'est le point final, c'est au fait l'objectif final de tout ce qu'on peut imaginer par rapport à notre repos que nous avons acquis. Alors, pour pouvoir commencer mon message, je voulais dire ceci. Il est possible d'acquérir ou d'accéder à son repos et arriver à la conserver aussi longtemps possible si seulement si l'on se livre à son entretien permanent. Il est possible d'acquérir ou d'accéder à son repos et arriver à le conserver aussi longtemps possible si seulement si l'on se livre à son entretien permanent. Nous avons dit que l'entretien est sporadique. De temps en temps, c'est comme le serviteur de Dieu l'avait dit le mercredi, que c'est comme un véhicule que vous avez. De temps en temps, le véhicule devait rentrer au garage pour le check-up afin que ce véhicule, cet engin, puisse être toujours à bon état. Donc, c'est une vérité qu'il faut qu'il y ait un entretien permanent par rapport à tout ce que nous avons eu à recevoir de la part du Seigneur. Pendant le mois de février, nous avons réussi bel et bien des choses. Nous avons accédé à certaines gloires. Oui, pour certains, ça a été effectif, mais pour d'autres, spirituellement, les choses ont déjà bougé. C'est question de temps pour que chacun puisse l'acquérir effectivement. Alors cette vérité que nous venons de déclarer nous incite à ajouter ce que nous voulons ajouter maintenant. Nous disons encore que la durabilité de notre repos est fonction, premièrement, de sa source et du respect des principes fondamentaux de son acquisition. C'est question de la source. Où est-ce que vous avez acquéri votre repos? À qui? Auprès de qui vous avez acquéri votre repos? Très, très important. Tout ce qui est humain, tout ce qui est de l'ennemi est éphémère. Mais ce que Dieu donne est durable. C'est pourquoi j'ai dit question de la source. Où est-ce que vous avez tiré votre repos pour espérer le concevoir aussi longtemps possible? C'est une question de source. Oui, mais c'est aussi une question de principes fondamentaux. Qu'est-ce que vous êtes dit alors que vous avez reçu ce repos? Qu'est-ce que vous vous êtes dit avec le Seigneur? Et pour en parler, ces choses dites peuvent être dites à haute voix, tout comme sournoisement dans le cœur. Il y a certaines choses, vous les recevez dans votre cœur. Vous sentez que, oui, le Seigneur me donne ceci, moi dans mon cœur, je lui donne cela. Je prends l'image de Anne, alors qu'il était en train de demander pour le repos qui était Samuel, dans son cœur. Ce n'était pas forcément à haute voix, mais dans son cœur, il y avait du donner et du recevoir. Du donner et du recevoir. Quelque chose se passe dans le cœur. C'est ça dont j'appelle les principes fondamentaux d'acquisition. Adam et Ève vivant dans le repos au jardin d'Éden, où Dieu était la seule source de leur repos, a donné deux principes fondamentaux. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, ainsi que l'arbre de la vie, constituaient les principes fondamentaux régissant les cadres du jardin d'Éden. On vous met dans un cadre, mais on vous donne des principes. Et si vous voulez conserver votre gloire, il faut rester dans ces principes. Il faut rester dans ces principes. Gloire au Seigneur. Il faut rester dans les principes. Pour Samson, les rasoirs ne devaient pas passer sur sa tête. Pour la femme adultère, la source de son repos lui avait dit, va et ne pêche point. C'est ça le principe. Femme, si tu veux garder ton repos, tu as juste une chose à faire, va, mais ne pêche plus. Vous comprendrez avec moi que chaque repos vient avec des clauses. Avec des clauses. Et pour cet homme de Gadara, aller prêcher dans les décapoles constitue son principe fondamental entre lui et son nouveau maître. Puisqu'il est signifié que cet homme s'est chargé de la proclamation de l'évangile dans les 10 villes conformément aux clauses du maître, posons-nous la question. Comment il a pu les réaliser? Vous comprenez que la tâche, elle est forte. Les clauses, ce sont 10 villes où il faut aller prêcher. Vous pouvez imaginer quel travail qui attend cet homme. Et cet homme, ce n'est pas aux disciples qu'on donne ce grand travail, mais c'est un ex-fou, un fou, qui jusque-là, en le regardant, vous n'avez rien apprécié. Et sinon, vous pouvez avoir les remords. Pour vous exposer quelques clés que cet homme a utilisées pour conserver son repos, permettez-nous de vous présenter le scénario. Qu'est-ce qui se passe dans le scénario alors que Jésus-Christ est venu trouver cet homme? Le verset 22 de notre chapitre de base nous donne des informations selon lesquelles, lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au devant de lui un homme de la ville. Ils accostent sur une ville non juive avec un but bien précis, la délivrance du fou de Gadara pour une mission spéciale. Nous répétons ce que nous avons dit dans notre précédente intervention, que Jésus-Christ de Nazareth n'est pas seulement pour les juifs. Il est le sauveur de l'humanité tout entière, dont la mission a commencé auprès des Juifs. Nous avons dit autrefois que ça ne sert à rien de chercher les dieux traditionnels. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est venu pour le monde entier. Il est venu pour toutes les nations. Mais question de plan, un plan du salut de toute l'humanité, mais qui commence par les Juifs. Alors que tu es ici, peut-être que tu es venu juste pour tenter, pour voir qu'est-ce qu'on va prêcher ce matin. Je voulais te dire que ça ne sert à rien de tergiverser. Il y a le salut qu'en Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salut ne se trouve qu'en lui. Le salut ne se trouve qu'en lui. Il est juif, mais il a le plan du salut pour toute l'humanité. C'est pourquoi, dans l'ordre missionnel, Matthieu 28, verset 16 à 17, il dira, « Allez, faites de toutes les nations, les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il est entouré par les Juifs, mais il donne les extrémités. C'est toute la terre. Allez sur toute la terre. Allez sur toute la terre. Et là, il confirme sa présence. Alors que vous serez en train d'aller sur toute la terre, je serai avec vous. Marc 16, verset 15, il dit mieux. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Est-ce qu'il y a de cela? Il y a de ceux-là qui sont ici, qui sont dans toute la création? Le Seigneur est venu pour vous. Le Seigneur est venu pour nous. Toute la création. Le plan, c'est juif d'abord. Jérusalem, Samarie et la Judée, puis les extrémités de la terre. Il a dit, Jésus arrive sur la terre, à son approche, c'était le représentant de la ville qui procède à son accueil. Vous savez que ça a été toujours comme cela. Quand une autorité arrive sur une place, il convient que les autorités de la place se présentent. Je suis en train de parler à quelqu'un. Il faudrait que, quand une autorité arrive sur une terre, dans une ville, il faut que les autorités de la place se présentent. Et ce jour-là, c'est l'autorité qui contrôlait les décapoles qui se présentait devant les seigneurs. Incarné dans un homme, toute une autorité incarnée dans un homme se présente devant les seigneurs. Donc quoi de plus que normal que quand une autorité arrive officiellement dans une ville, que les autorités de la place fassent le déplacement pour l'accueil. Ces esprits démoniaques incarnaient l'autorité spirituelle, et non pas seulement des Gadara, mais de la décapole. Et pour ce cas, la légion est allée se plier devant l'autorité suprême. Alléluia! C'est la légion qui est venue présenter les civilités devant les maîtres de tout. Devant l'autorité suprême, c'est la légion. Une légion. Une légion. Oui. À son entrée dans le monde, Jésus s'est vu venir salué par les autorités de l'époque. Bébé qu'il était, Hérode tremblait du haut de son trône. Il envoie des mages. Il y a quelqu'un qui est né quelque part. Il faut aller les saluer. Il faut aller les saluer. Il convient que quand une autorité arrive officiellement, c'est un travail officiel, il faut que les autorités officielles se présentent. Hérode, qui était en place, a envoyé une délégation pour saluer, pour situer les lieux de sa naissance. Il dit, même s'il y avait de la machination derrière, il dit, mais pour que moi aussi j'aille l'adorer. Je vais faire les déplacements pour aller les saluer. Saluer sa venue. Cependant, le verset 27 ajouta des détails sur cet homme. Nous lisons, cet homme qui était possédé de plusieurs démons. Verset 30 donne des informations supplémentaires sur les démons. Nous lisons, Jésus lui demanda, quel est son nom? Les gens répondit-il. Luc ajoute des explications pour dire, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Là, c'est lui qui est en train d'ajouter les informations. Y égard de ce qui précède, il y a lieu de tirer toutes les conséquences possibles. D'où, il faut des secrets qui vous permettront d'entretenir et surtout de conserver votre repos. Pourquoi? Parce que sortir de cette situation machiavélique et aller juste arriver à faire bien l'œuvre de Dieu jusqu'à toucher les décapoles, c'est que quelque chose devait se passer dans la vie de cet homme. Quelque chose devait se passer. Cette rencontre, ce n'était pas une rencontre ordinaire. C'était une rencontre forte. Vous savez, dans la légion, quand on parle de la légion par rapport à la pensée biblique, cela veut dire, dans une unité de militaires, il y a plus de 1000 militaires, soldats, dans la légion. Je vais pouvoir, par la grâce de Dieu, donner des détails un peu plus bas. Mais regardons un peu deux choses qui me sautent aux yeux. Quand je regarde, je lis ce passage, deux choses qui me sautent aux yeux. Ces deux choses, je me suis dit, ce sont des réalités que la plupart de nous vivent. Et des choses qui peuvent nous empêcher à pouvoir effectivement être ce que Dieu veut que nous puissions être. La première des choses que je vois que cet homme a été victime, la première des choses, je vois de l'acharnement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi de l'acharnement? L'acharnement. L'acharnement, c'est, selon les dictionnaires français, est une fureur, animosité, opiniâtre, persévérante, avec lesquelles des animaux ou les hommes se battent les uns contre les autres. Et tandis que l'animosité est une disposition persistante de malveillance qui porte à nuire à quelqu'un. Cet acharnement que nous faisons allusion n'est de personne d'autre que de Satan. Quand vous regardez l'apparence, l'image que ce démon, cet homme nous donne, vous voyez, vous sentez de l'acharnement. Et l'acharnement n'est pas de n'importe qui, mais l'acharnement de Satan dans la vie d'un homme. L'acharnement, de l'acharnement de Satan dans la vie d'un homme. Vous savez, la Bible dit, l'Apocalypse 12, verset 12, que le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant qu'il a peur de temps. Il a peur de temps, il le sait. Et il est descendu avec ardente colère. Tel est le cas général pour le monde. Satan est là, ses œuvres sont aussi manifestes. Mais pour une certaine catégorie de gens, vous avez l'impression comme si le diable s'était acharné contre une personne. Non pas seulement contre une personne, contre toute la famille. Vous regardez cet homme, vous dites, mais il est sorti de quelle famille? De quelle famille est cet homme? Pourquoi? Parce que il y a de l'acharnement du diable dans les chefs de cet homme. De l'acharnement. Et tel est le cas pour ce verset. Le verset 27 et le verset 29 nous édifient là-dessus. Est-ce que nous pouvons lire avec la technique le verset 27 et le verset 29? La technique est avec moi. Le verset 27 dit ceci. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Le verset 29, quand Jésus commandait à l'esprit impie de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps, la Bible déclare, on les gardait liés des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par les démons dans le désert. Quel acharnement, quelle image de l'acharnement du diable sur un homme. Bien le même si on peut être méchant, comment est-ce que des démons peuvent habiter plus de 1000 démons dans un seul homme? C'est purement de l'acharnement. Ce matin, il y a des gens, il y a des familles comme la vie de cet homme, où vous avez l'impression que Le diable a jeté de l'opprobre dans votre famille. Vous êtes comme la cible de l'ennemi. Il y a des poids qui vous pèsent dessus. Personne ne peut sortir la tête. C'est vous qui essayez de faire sortir la tête et vous voilà encore dans la noyade. Vous êtes perdu. Pourquoi? Parce qu'il y a la pression, la pesanteur du diable. Et cet homme a subi ces choses. Kilos, tous les kilos, de 1000 démons sur lui. Vous savez, pour votre gouverne, Satan a été précipité avec un tiers des anges qui l'ont donc suivi. Et la Bible confirme que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Donc en termes d'effectifs, le diable sait qu'il est déficitaire. Mais comment est-ce qu'il peut concentrer tous ces démons dans la vie juste d'une seule personne? C'est qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, c'est qu'il y a un problème? C'est qu'il y a un problème. Quand vous voyez cet acharnement dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose dedans. Bien aimé, j'aimerais te confirmer qu'il y a quelque chose dedans. Il y a une carte sous la table, une carte qui se joue. Est-ce que quelqu'un peut dire vraiment, je crois que ce que je vis, il y a une carte sous la table. Il y a une carte sous la table, elle dit. Personne ne peut vivre ce que tu vis. La pression est tellement forte. Non, personne ne peut vivre. Non. Même si on peut s'acharner contre quelqu'un, tu sais que tu es déficitaire en termes d'effectifs et tu prends 1000, plus de 1000 démons, plus de 6000. Oh, regardez. Là-bas, c'est... Voilà, les gens, c'est 6000. 6000 soldats, 6000 démons. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez seulement un seul démon, vous avez des problèmes. Maintenant, vous en avez 6000, plus de 6000 démons. Non. Ça, c'est pire acharnement. Il n'y a rien. Il y a de l'acharnement. Vous sentez de l'acharnement. Ça, c'est merveilleux. Cet homme, c'est ce qu'il a vécu. Mais j'aimerais te dire ce matin qu'à côté de cet acharnement du diable, il y a aussi un amour excessif de Dieu. Le diable, Satan ne gagnera pas. Le Seigneur jouera dans une même proportion, sinon il va monter des enchères pour toi. Il montera des enchères. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur va te permettre d'augmenter les volumes. Il va regarder de l'acharnement que tu reçois et il va augmenter le volume de son amour vis-à-vis de toi. Oui, il va augmenter le volume de son amour. Je prie Dieu pour que quelqu'un reçoive un amour excessif de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné. Dieu a tant aimé. Il a tant aimé. Il a tant aimé. Mais le Seigneur, tu pouvais dire seulement Dieu a aimé le monde. Il ajoute le volume. J'ajoute le volume pour toi. Reçois cet amour de Dieu pour toi. Un amour excessif. Non, je ne voulais pas dire qu'un amour proportionnel à son acharnement. Non. Au-delà de son acharnement. Amen. Recevez cet amour de Dieu. Donc d'une part, vous sentez de l'acharnement, mais le Seigneur aussi travaille pour qu'il manifeste un amour excessif vis-à-vis de cet homme. C'est pourquoi le Seigneur va se décider. Un matin, il dit aux disciples, passons de l'autre côté. Alléluia! Passons de l'autre côté! Il y a un jour que le Seigneur, je voulais dire qu'il va se souvenir, non, il ne va pas se souvenir. Il sait ce qu'il fait. C'est un programme. Alléluia! C'est un programme. Vous savez, le programme du salut, c'est un plan qui commence par les Juifs et après, il ouvre la porte aux nations. Et même les disciples étaient étonnés. Nous sommes dans des pays juifs, mais un jour ils se réveillent, passons de l'autre côté. Ils traversent la mer de Galilée pour aller toucher une ville païenne. Bien aimé, tu as un temps d'être visité. Tu as un temps d'être visité. Dans son plan, tu y es dedans. Il ne t'a pas oublié. C'est un plan qui est dans sa tête. Tu ne vas pas mourir, il viendra. Il viendra avant que tu ne sois mort. J'aimerais te dire que cette maladie ne t'enterrera pas. On ne t'enterrera pas à cause de cette maladie.
Pourquoi? Parce que l'Éternel ne vient jamais en retard. Il ne vient jamais en retard. Les disciples étaient étonnés. Un matin, ils se disent, bon, le bagage, passons de l'autre côté. Et le diable voulait menacer dans la tempête. Ah, restez calme, nous traversons quand même. Ils arrivent là où le fou de Gadara, qui avait les troubles, qui n'avait pas de repos, corps, âme, esprit, sens d'ici, dessous, il vient et il la calme. Il donne le calme dans la vie de cet homme. Merveilleux. Donc j'ai dit, à côté de l'acharnement du diable, Dieu réserve un amour excessif pour toi. Il sait quand est-ce qu'il va t'exprimer cet amour. Pour les uns, il a déjà exprimé cela. Mais pour les autres, il y a des temps. Vous allez voir. Vous savez, ça arrive à un moment de la vie. Vous avez l'impression que Dieu est seulement pour vous. Hein? Ça vous arrive déjà. Eh, bien aimé, ça m'est déjà arrivé. Donc vous avez l'impression que Dieu est à ton côté. Alléluia. Comme si Dieu est de ton côté. Ça arrive. Tu n'auras pas toujours des temps difficiles, des temps de pleurs. Tu auras des temps aussi que le Seigneur viendra pour te faire rigoler un peu. Il va te faire des diki-diki. Il va te faire quelque chose que tu vas sentir que non, Dieu même. Cet homme a vu l'amour de Dieu. Quand Jésus s'approche, vous savez, il y a une lutte entre l'homme qui habitait. Pourquoi? Parce qu'il ne perd pas toute sa personnalité. Donc c'est vrai que les démons qui sont nombreux, qui sont venus influencer sa vie, qui l'amènent à tout ce que nous avons regardé. Mais vous sentez que cet homme, dans son âme, il a soif de Jésus, il va se jeter. Même les démons n'ont pas compris. Mais comment tu viens devant cet homme? Cet homme qui nous a chassé au ciel est venu encore sur la terre. C'est pourquoi quand les démons se présentent, mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Tu es venu pour me perdre? Non, ce n'est pas pour te perdre. Je suis venu pour libérer cet homme que tu as retenu captif. Il y aura un temps où tu seras dans l'abîme, mais ce n'est pas encore le temps. Ce n'est pas encore le temps. Je règle ce problème, le problème de cet homme, et cet homme réglera le problème de son pays. Bien-aimé, ta délivrance, c'est une grande délivrance. Ton repos, c'est un grand repos qui touchera des nations. Qui touchera des nations. Tu es la porte de bénédiction de ta famille. J'aimerais te dire que tu es la porte de bénédiction de ta famille. Cet homme qu'on a rejeté, prenez le temps de lire ce passage. Vous allez voir quel acharnement. Il est là, Marc est en train de dire partout, il est en train de crier. Le démon était tellement fort. Cet homme a perdu tout. Il a perdu sa personnalité. On dit il n'a pas d'habit. Les habits. Comment est-ce que quelqu'un peut perdre? Il n'a pas d'habit. Vous vous rendez compte? Même les diables, même Adam et Ève, quand il a péché, il s'était venu. Mais il a cherché quand même quelque chose pour mettre. Mais comment cet homme se laisse nu? Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que le diable est capable de faire dans notre vie? Ne donnez jamais l'opportunité au diable d'entrer dans ta vie. Fermez tout ce qu'il y a à fermer. Non, le diable n'est pas bon. Il n'a jamais été bon. Je ne sais pas comment cet homme a hérité ce nombre de démons, mais ça a commencé peut-être par un. Un démon, deux démons, trois démons, et puis les démons vont chercher encore d'autres démons. Venez, là-bas c'est vide. On part, on entre encore. Regardez. Cet homme, il est au cimetière. Il a laissé la maison. Il a perdu l'identité de sa maison. Si c'est la famille Nzala, il n'a plus cette famille. Il reste, c'est un homme, un fou. Il n'a pas de nom. Il a perdu tout. Il est là dans le cimetière. Il est en train de crier. Il est en train de se mettre sur. Il est en train de se déchirer le corps. Quel acharnement. Quand je regarde cette maladie qui est en train de te terrasser, je sens dans mon cœur que tu as l'impression que l'ennemi s'est acharné contre toi. Tantôt ça t'arrive de dire, mais est-ce que je ne peux pas mourir? Est-ce que je préfère mourir que de rester dans cette situation? Non, l'image de cet homme. La Bible dit que ses frères essayaient un peu de les prendre. Ils mettent un peu les chaînes. Ils essaient de maîtriser. Ils déchiraient, ils rompaient les chaînes. Et ils continuaient à crier. Ils continuaient à crier. Ils faisaient des cris. Celui-là, c'est qui? Ah, c'est les fous, là. C'est les fous, là. Ah, les gens qui le connaissaient avant, ils disaient, oh, il était de cette famille. Mais il a perdu son identité. C'est triste. Mais Dieu, un jour, va s'élever contre ses ennemis. Ces bourreaux, ces gens-là qui ont pris en otage cet homme, un jour, ils ont vu. La Bible dit, l'Exode, chapitre 3, verset 7, « Je vis la souffrance, mon peuple. J'ai entendu les cris que lui font pousser l'oppresseur. Je suis descendu. Le Seigneur va descendre. Le Seigneur va descendre. J'ai dit à quelqu'un que le Seigneur va descendre. Il va descendre. Il y aura un temps où il va te dire, non, j'ai entendu, j'ai vu. J'ai vu. Et le Seigneur va envoyer la délivrance par Moïse. Et comme Satan s'est acharné sur cet homme en mettant plus de 6000 démons, les pharaons aussi, alors que le peuple est en train de sortir, il prend tous ses élites, les chars, les chevaux. Allez, focus, suivre les Hébreux. Ils suivent les Hébreux, ils suivent les Hébreux. La mer s'ouvre et les Hébreux passent. Les élites, les démons envoyés par Pharaon, ils entrent dans la mer et ils vont se perdre dans la mer. De la même manière, Satan a perdu sa légion. C'est de la même manière Pharaon a perdu ses vaillants soldats dans la mer. La mer a ouvert la bouche et tout était englouti. Oui, le Seigneur va se venger. Il va se venger. Il va se venger. Il est dit, les démons étaient là pendant longtemps. Le Seigneur aussi, en travaillant avec toi, il prendra son temps pendant longtemps. Il y aura de la patience pour passer de ville en ville. Il va attendre pour que tu finisses ta mission. Alléluia. Tu vas finir ta mission. Il va être là, croisant les mains, te regardant du haut de son trône. Que tu es en train d'aller de porte à porte pour pouvoir gagner du terrain. Alors, qu'est-ce qui a fait que cet homme puisse garder, commençant par une ville, par une personne, pour aller jusque dans les décapoles. J'ai senti dans cet homme des secrets fondamentaux. Le premier secret, ou le premier clé que cet homme a mis, c'était de l'attachement au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire attachement au Seigneur? Attachement au Seigneur. Vous savez, si en amont, vous avez une idée sur l'acharnement que le diable a eu dans votre vie, contre votre vie, de l'autre côté, vous allez mettre une sorte de sérieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, en fait, votre sérieux dans l'attachement avec le Seigneur dépend de l'acharnement que vous avez reçu avant. Cet homme s'est dit, ce que je vais faire, je vais m'attacher à Dieu. M'attacher à Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, c'était important que cet homme puisse passer par une certaine étape. La Bible dit, alors qu'il a été touché par Jésus, la Bible dit que premièrement, il était assis. Il était assis au pied de Jésus. Assis au pied de Jésus, c'est question de l'enseignement, de coopération entre le maître et lui. Ils ont eu un petit moment de coopération, d'attente, de telle sorte que les gens sont venus d'ailleurs, ils sont venus voir que Jésus était en train de coopérer avec une personne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, votre possibilité de conserver votre salut, dépend de l'entretien que vous allez mettre en vous attachant au Seigneur. Vous êtes assis en train d'acquérir des choses qui vont vous soutenir pendant que vous serez en train d'accomplir votre mission. Il était assis. Il était assis. Et non pas seulement assis, il était vêtu. Vous sentez la différence, hein? Vous avez senti la différence? Quand le Seigneur vous délivre, vous tous, vous êtes assis. Vous n'avez pas besoin de beaucoup trembler. Je vois ça avec les disciples, hein, avec certaines personnes dont je ne vais pas citer le nom. Même si le trouble est commun, mais vous voyez la calmie, il est calme. Oh. Maintenant, je ne sais pas, vous avez quel Seigneur qui vous met toujours en trouble? Quand le diable vient, il vient, il amène les troubles. Mais quand le Seigneur vient, il met la calme, le repos. Même en plein trouble, vous pouvez jubiler. C'est pourquoi dans la tempête apaisée, le Seigneur était en train de dormir. Il dort. Et il se réveille, il se tourne. Comment vous ne dormez pas? Comment vous ne dormez pas? Et puis, il s'élève. Il crie d'abord sur eux, sur leur incrédulité. Prochainement, ne faites plus ça. Quand je m'endors, il faut me laisser calme. Ah, il y a des gens qui ne sont pas troublés quand vous êtes troublés. Et ils ont un secret, c'est être assis. Les gens qui prient, les gens qui lisent la parole de Dieu, qui puissent leur force. Ce sont des hommes assis. Et cet homme a appris cela. Quand il sort de la présence de Jésus, il sort avec ses bagages pour affronter direct. Le Seigneur a déjà fait un grand travail. Le Seigneur a chassé les démons, il a jeté ça sur le troupeau. Donc, c'est déjà assaini. Le décapole est déjà assaini. L'autorité a été déjà maîtrisée. Donc, toi, tu n'as qu'à aller porte à porte pour aller gagner le territoire. Donc, la deuxième des choses, il était vêtu. J'aimerais dire à quelqu'un, le Seigneur te remettra l'honneur que tu avais perdu. Le Seigneur te remettra l'honneur. Cet homme a perdu son honneur. Vous savez, les habits, c'est un honneur. C'est pourquoi quand je prêche là, je ne suis pas quand même, je suis bien, non? Je suis digne d'être devant vous. Et c'est ça l'honneur. Et je ne peux pas être ici comme ce fou-là. Et cet homme a perdu l'honneur. Vous sentez qu'il est là, sans habit, et puis il s'en fout. Mais quand Jésus vient, tu es calme. On te revêt ton honneur. Donc c'est que les habits étaient quelque part. J'aimerais te dire que les habits étaient quelque part. Les gens là qui ne parvenaient pas à te maîtriser, alors que le Seigneur t'a maîtrisé, ils viendront avec les habits. Et ils ne viendront pas avec des habits de n'importe comment, avec des habits de gloire. Des habits de gloire pour quelqu'un ce matin. Des habits de gloire pour quelqu'un ce matin. Reçois ces habits de gloire. Fini avec les habits de n'importe comment. Il y a tellement de messieurs dans ton corps, mais les gens n'auront pas peur de te faire porter cet habit de gloire. Ni, les gens sont venus voir comment cet homme qui était tout en nu, passait pendant longtemps, mais il le trouve assis, vêtu, peut-être avec des maîtrisures, mais vêtu. Et troisièmement, dans son bon sens. Dans son bon sens. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, bon sens? Papa, reviens un peu dans ton bon sens. Ce que tu fais, ça se voit que tu n'es pas dans ton bon sens. Ce que tu fais au travail, ce que tu fais dans la cité, ce que tu fais, c'est vrai que tu es autorité, tu es à ce niveau-là, mais ce que tu fais, on sent que tu n'es pas dans le bon sens. Il faut que tu rentres dans le bon sens. Si le Seigneur entre dans ton cœur, tu ouvres grandement ton cœur, il vient dans ton cœur, il te donnera le bon sens. C'est pourquoi même la respectabilité dans nos familles, ce n'est pas seulement l'argent. Non, ce n'est pas seulement l'argent. Il y a des familles où les gens ont l'argent, mais quand il faut aller dans des choses sérieuses, on dit, attendons le pasteur. Attendons le pasteur de la famille. Ça vous est déjà arrivé? Attendons les pasteurs de la famille. Quand même que vous n'êtes même pas pasteur. Le bon sens, cet homme a goûté à cela. Et voilà. Et la deuxième des choses que je voudrais ajouter ce matin, en dehors de l'attachement au Seigneur, mais il y a aussi les services du Seigneur. Les services du Seigneur. Vous savez, il y a des mécanismes d'entretien. Vous savez que les services que nous faisons pour le Seigneur nous sanctifient. Vous voyez? Parce que je dois apporter ceci à l'église. Parce que je suis ceci à l'église, je ne fais pas comme n'importe qui. Je ne fais pas comme n'importe qui. Vous savez que l'ennemi est en train de guetter. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, quand les démons quittent dans une personne, il va se déambuler, il va aller. Quand il ne trouve pas de blé de repos, il rentre là où il était. Il voit, il regarde. Si c'est nettoyé, tout ça, c'est vide. Au lieu d'entrer seulement, non, il rentre d'abord, il va chercher encore d'autres. Ils viennent pour entrer dans la personne. Alors, pour pouvoir garder ton repos, pour que ton repos soit bien conservé, bien-aimé, sers le Seigneur. Sers le Seigneur. Sers ton Dieu. Je ne veux pas dire servir le Seigneur, c'est seulement aller dans un département. Ça va au-delà des départements. Vrai, aller dans les départements, servir le Seigneur comme nous le faisons. Mais au-delà de cela, nous tous, nous sommes serviteurs de Dieu, où que nous soyons. Vous devez vous rappeler de Zorobabel qui était gouverneur de Juda. Zorobabel, la Bible dit, mon serviteur Zorobabel. Ok? Joseph qui était gestionnaire à ce niveau, serviteur de Dieu. Non, parce que je suis ceci, je suis cela, les services sont pour eux. Non, nous sommes les serviteurs de Dieu. Un jour, nous allons répondre devant le Seigneur par rapport à tout ce qu'il nous a donné comme talent. Tout ce qu'il nous a donné comme don. Le Seigneur, un jour, nous allons répondre. Les services de Dieu nous apportent des bénédictions, des grâces. Les services de Dieu nous donnent la sécurité. La Bible dit dans le livre de Psaume 105, verset, je crois 5, « Ne touchez pas à mes oins. » J'aimerais te dire que le service de Dieu te protégera. Les démons qui t'acharnent contre toi, alors que tu vas servir ton Dieu, ils vont te fuir. Ils viendront, mais ils fuiront. Ne touchez pas à mes oins. Le Seigneur va dire, Dieu va dire à Satan, tu as vu mon serviteur Job? Tu l'as vu? Non, Seigneur, tout ça là. Il dit, ça va, toucher à ceci. Mais ne touchez pas à son âme. Ne touchez pas. Le service de Dieu te sécurise. Tu ne seras plus malléable par l'ennemi. Non, tu ne seras plus malléable. Le Seigneur est avec toi. Où que tu sois, qu'est-ce que tu fais? Tu es commerçant, tu commerces. Sers le Seigneur à ce niveau. Le Seigneur, il va, dans Actes des Apôtres, chapitre 4, à la fin, nous voyons, alors que les disciples étaient ensemble, un homme va sortir, Barnabas. La Bible dit, il vendit sa propriété. Il prend tous les bénéfices, tout ce qu'il a eu à vendre, l'argent, cela veut dire, il apporta cet argent aux pieds des disciples. Moi, je ne suis pas comme vous devant pour prêcher, mais j'apporte ce que je peux apporter. Et qu'est-ce que la Bible nous dit pour notre frère, notre sœur, Marie de Magdala? Luc chapitre 8. Nous lisons Luc chapitre 8 pour pouvoir terminer. Luc chapitre 8, verset 1 à 3. La Bible dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Ok? Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, éprise d'Hérode, qui l'assistait de leur bien. Dans l'œuvre de Dieu, dans les services de Dieu, il y a les uns qui sont au front. Les autres sont là pour pouvoir donner des munitions. Les munitions. Est-ce qu'il y a des femmes ici comme des Suzanne? Est-ce qu'il y a des femmes comme des Jeanne ici? Il y a des femmes comme des Marie de Magdala? Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour vous-même? Le Seigneur affronte. Il affronte les démons. Mais derrière lui, il y a toute une machine. Il y a toute une machine. C'est pourquoi quand les pasteurs crient beaucoup ici, Shalom 50, Shalom 50, il sait qu'il y a des femmes ici. Il y a des Suzanne ici. Il y a des Marie de Magdala ici. Il y a des Jeanne ici. Il y a aussi des Jeanne hommes. Hein? Des Jeanne. Ah, voilà. Des Jeanne hommes sont des gens. Donc il y a des Jeanne ici. Hein? Les pasteurs crient beaucoup, mais derrière toute une machine qui pompe, qui donne des moyens. Pourquoi? Parce qu'ils se souviennent qu'ils ont été. Ils ont été. Ils ont été. Bien-aimés, les services de Dieu, c'est aussi une preuve de reconnaissance à Dieu. Dieu nous a tirés de très loin. À cause de cela, nous sommes des doulos, des simples serviteurs. Nous n'avons pas de droit. Hier, nous avons été auprès d'un bourreau. Celui qui nous a menés dans les cimetières là-bas. Mais maintenant, toi, tu es venu bien, calme. Tu m'as libéré et puis je suis calme, je suis bien habillé, je suis dans mon bon sens. Et puis qu'est-ce que je peux faire encore? C'est servir Dieu. Serre Dieu là où tu es. Serre Dieu là où tu es. Je pense que le temps m'est imparti est déjà fini, donc je pense que c'est ça ma conclusion. Serre ton Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut s'élever? Nous allons prier pendant un petit moment. Seigneur, viens nous en aide. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oui, nous avons été hier auprès d'un bourreau. Quelqu'un qui nous a mené à être esclaves. Nous étions, Seigneur, au-dessus des cimetières, en train de nous mettre sur. Nous avons été, Seigneur, en train de crier. Nous étions, Seigneur. Mais tu es venu me libérer. Tu es venu nous libérer. C'est pourquoi nous pouvons, Seigneur, te donner que ce que nous sommes. Nous te donnons tout, Seigneur. Nous te donnons tout. Nous nous recommandons à toi, Seigneur. Nous voulons, oh Dieu, merci pour l'honneur que tu nous as donné. Merci pour la respectabilité que tu nous as donné. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, élève ta voix.